Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette première partie, nous allons revenir avec le frère Jean-Jacques Pérennes sur la signification et la portée de la béatification annoncée de 19 religieuses et religieux assassinés en Algérie dans les années 90. Fin janvier, le décret de béatification des 19 martyrs tués en Algérie entre 1994 et 1996 a été rendu public par le Vatican. Martyr, c'est le nom donné par l'Église pour désigner celles et ceux morts pour leur foi. Parmi eux, les 7 moines du monastère de Tibrine et Monseigneur Pierre Clavry, évêque d'Oran, assassiné le 1er août 1996, quelques mois après les religieux de l'Atlas. Le frère dominicain Jean-Jacques Pérennes a vécu en Algérie 8 ans. Il était très proche de Pierre Clavry. Il lui a consacré une biographie en l'an 2000. Au Caire, puis à Jérusalem, où il dirige désormais l'école biblique, il a accompagné les étapes de la béatification qui pourrait avoir lieu en Algérie et non à Rome, ce qui serait un symbole fort. Parmi ces religieuses et religieux qui ont décidé de rester en Algérie malgré la violence qui s'y déchaînait, nous avons demandé à Jean-Jacques Pérennes que représente Monseigneur Pierre Clavry.
Il représente à la fois un parmi d'autres, parce que le témoignage qu'il a donné est aussi grand, mais aussi de même niveau que ce qu'on a les uns et les autres. Et en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui a été plus en vue parce que, à cause de ses dons personnels, à cause de sa formation, il a su trouver les mots pour exprimer le sens de leur engagement, hein. Cet engagement d'une présence chrétienne en milieu musulman, où on veut développer l'amitié, où on n'est pas là pour faire du prosélytisme. Pierre était quelqu'un qui a mis ça en mots, si j'ose dire. Et aussi, il est marquant par le fait qu'au moment de l'épreuve, il a fait le choix de parler, hein, de parler en solidarité avec les Algériens. Bon, les moines étaient beaucoup plus dans une discrétion liée à leur statut, de même que les religieux, etc. Donc Pierre, d'une certaine manière, a été beaucoup sur le devant de la scène. Nous le lui avons d'ailleurs un peu reproché, moi y compris, à ce moment-là, en disant « Pierre, tu prends trop de risques ». Et il estimait de son devoir de parler, parce qu'il dit « Moi, on m'écoute, donc je dois le faire en solidarité avec mes amis algériens ».
Dans le communiqué, Jean-Jacques Pérennes, que vous avez rédigé, donc à l'occasion de ce qui sera sa béatification, vous écrivez qu'en fait, le dialogue pour Pierre Clavry, c'était pas un dialogue par tactique ou par opportunisme, mais c'était un dialogue vraiment pour entrer en relation avec Dieu et avec les hommes.
Oui, c'est très lié à sa propre histoire. Pierre Clavry est un pied noir qui est né dans l'Algérie coloniale. Il la quitte à 18 ans en pleine bataille d'Alger, en 58, et pour venir à Grenoble faire des études, et il n'a rien compris à ce qui se passe. Et s'est immergé dans le tourbillon politique de la guerre d'Algérie en France, ses yeux s'ouvrent et il dit « Mais en fait, j'ai vécu toute ma jeunesse dans une bulle coloniale ». Et donc tout l'effort de sa vie a été vraiment un effort pour aller vers l'autre, pour sortir, pour rencontrer. Alors, il l'a fait, revenant jeune prêtre en Algérie, d'abord dans son activité de religieux, de théologien, etc., pour l'Église d'Algérie, mais il l'a fait de plus en plus dans un effort de rencontrer les amis musulmans, et il avait le souci, de ne pas gommer les différences. Et là, je trouve qu'il a eu un regard sur le dialogue interreligieux qui est assez intéressant. Aujourd'hui, le dialogue interreligieux a assez mauvaise presse. Les gens trouvent que c'est bidon, que en fait c'est pour faire plaisir et que ce dialogue est mensonger. Je pense que c'est un jugement qui est un peu sévère, mais pas forcément tout à fait faux non plus. Et Pierre insistait sur le fait que le vrai dialogue, il disait d'ailleurs qu'il vaut mieux parler de rencontre, parce que le dialogue, nous n'avons pas encore les mots pour le dialogue. Mais la rencontre suppose de respecter nos différences. Et ce qui, disait-il, est intéressant, c'est justement quand on prend en compte nos différences, parce qu'on peut s'enrichir les uns de la différence de l'autre.
Sinon, c'est un aplanissement.
Voilà, sinon, si on enlève tout ce qui fâche dans la rencontre entre chrétiens et musulmans, on ne parlera plus de la Trinité, on ne parlera plus de la vie de Mohammed, on ne parlera plus de grand-chose. Alors que si, véritablement, on essaie de se respecter, de s'écouter, et, disait-il, essayons d'abord de faire des choses ensemble. Et alors, évidemment, c'est là où tout son engagement pour la liberté et une Algérie plurielle, non exclusive, prend son sens. Parce que faire des choses ensemble, il en a eu une sacrée occasion lorsque l'Algérie a été presque engloutie dans cette tourmente islamiste. Et il a vraiment fait cet effort de tenir très haut cette parole, cette exigence d'une humanité plurielle, parce qu'il croyait justement à la richesse de la rencontre.
Alors, Jean-Jacques Pérennes, vous avez été donc directeur de l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales au Caire, ça pendant une très grosse dizaine d'années, même plus, 15 ans, non, c'est ça ?
15 ans, oui, 15 ans. J'ai été 15 ans au Caire, oui.
Alors, est-ce que précisément Pierre Claverie vous a été un guide en quelque sorte, hein, pour vous, justement, dans cette immersion en monde musulman ?
Oui, bien sûr, parce que pour ne pas entrer justement dans des dialogues de surface ou de complaisance ou notre choix au Caire, mais d'autres le font ailleurs, c'est vraiment d'essayer de travailler avec, au Caire c'était avec des intellectuels musulmans, des gens des Lazars, des universités, pour essayer de trouver ensemble des sujets d'études où nous puissions nous trouver dans un travail commun de recherche, pour pas chercher à tout prix une unanimité facile. Et Pierre aussi a un élément très important dans son approche que je trouve fort intéressante. Il disait, quand d'ailleurs au Caire, le père Anawati disait la même chose, si on a pu créer une relation d'amitié, quand il y a des liens forts, ensuite on peut se permettre d'être en désaccord. Et je trouve ça très important. Quand il y a un socle humain, de relations humaines, vraiment authentiques, pas l'amitié pipeau, des vraies relations humaines fortes, ensuite, on peut, en effet, commencer à discuter des choses compliquées.
C'est-à-dire qu'on commence par l'humain et on poursuit avec le théologique ?
Oui, ça peut être vu comme ça. En tout cas, on s'assure qu'il y a une vérité de la relation personnelle. Et à ce moment-là, on peut commencer avec d'ailleurs des frustrations. Parce qu'évidemment, Pierre avait ce mot, il disait que tant qu'on n'a pas mesuré l'abîme qui nous sépare. Il y a un abîme culturel, intellectuel, etc. Mais voilà, quand on a pris conscience de cet abîme, après, on peut quand même essayer de trouver des passerelles, des ponts, des liens.
Comment Monseigneur Pierre Claverie voyait la présence chrétienne en Algérie ? C'était l'église chrétienne en Algérie, l'église chrétienne d'Algérie ?
Il y a eu toute une évolution. Pendant les premières années après l'indépendance, l'église d'Algérie s'est mise au service du développement du pays. Donc il y a eu en gros 20 ans hein, où les églises, à travers ses écoles, à travers ses dispensaires, ses centres d'accueil d'étudiants, etc., rendaient des services, voilà. Puis à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus très nécessaire, voire même plus très désirée. Et il a fallu à ce moment-là se centrer davantage sur ce que Mgr Tessier appelait une église pour un peuple musulman.
Donc Mgr Tessier, ancien évêque d'Alger. Voilà.
Ancien évêque d'Alger, très grand ami de Pierre Claverie. Et Henri Tessier dit souvent, nous ne sommes pas une église du silence, nous sommes une église de la rencontre. Et de fait, c'est une église qui n'est pas là pour convertir quelques musulmans en faisant de la pêche à la ligne comme ça et en sortant quelques-uns de leur contexte, quitte à les mettre dans des situations humaines et personnelles épouvantables. C'est plutôt une église qui est là, évidemment pour témoigner du Christ, de l'évangile, des valeurs de l'évangile, mais aussi pour essayer de nouer une rencontre de qualité. Et il y a en effet dans ce pays, en Algérie, des hommes et des femmes qui ont très bien compris ça, qui ont compris qu'ils avaient là des partenaires à la fois pour leur combat démocratique, pour leur combat pour une société pluriculturelle, une société où la religion musulmane reste une religion ouverte. Et donc Pierre Claverie a vraiment été, d'abord comme théologien quand il était à Alger, puis comme évêque, une sorte d'acteur éminent dans cet effort de la présence d'une église, qui soit une église dans un peuple musulman, pas pour convertir, mais pour développer une rencontre et éviter à ce pays de s'enfermer sur lui-même.
Alors une église qui, dans le même temps, se doit de rester discrète. Ça, c'est quand même la condition pour être là. Il faut quand même le souligner.
Oui, discrète, mais en même temps, elle a pignon sur rue. Je veux dire, on n'est pas dans la situation de l'Arabie Saoudite ou de je ne sais où. L'Église est quand même acceptée. Bon, il y a des hauts et des bas. Actuellement, par exemple, il y a un ministre des Affaires religieuses qui est un homme très ouvert, avec qui, sans plus dire, la relation est excellente. Il y en a eu d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Bon, ça va et ça vient, ces choses-là. Mais sur le fond, quand même, je crois que l'Église, elle est créditée du grand courage du cardinal Duval. Le fondateur, c'est Duval, qui était un très grand bonhomme, qui a compris pendant la guerre d'Algérie que le destin de l'Église ne devait pas être lié au sort des pieds noirs, même s'il les respectait. Eux-mêmes lui en ont voulu beaucoup, mais que l'Église était là pour l'Algérie et devait donc devenir une Église algérienne. Et d'une certaine manière, j'allais dire, cela s'est fait dans le drame récent, dans le drame d'il y a 20 ans. Parce que c'est justement parce que nos frères et sœurs qui sont morts sont restés quand ça allait mal, qu'ils ont en quelque sorte acquis le droit d'être reconnus comme vraiment des partenaires et des gens qui sont vraiment solidaires. Et Pierre Claverie a un texte admirable, sa dernière homélie à Prouille, en disant « Nous sommes là impuissants comme au chevet d'un ami malade, en lui tenant la main, en lui épongeant le front. C'est un texte splendide, mais qui, je crois que c'est un moment assez fondateur aussi de la présence aujourd'hui de l'Église en Algérie. D'une certaine manière, le drame d'il y a 20 ans a ses fruits maintenant. Et ça explique que peut-être une béatification en Algérie devienne possible, puisqu'il est question en effet que c'est le souhait d'évêque d'Algérie que cette béatification ait lieu en Algérie. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais osé parler d'une chose pareille.
Oui, ça serait fait à Rome, oui.
Oui, le fait qu'on puisse poser la question aujourd'hui signifie que peut-être cette Église, alors en effet petite, discrète, etc., mais elle a droit de citer.
Alors sur cette béatification qui aura lieu, on ne sait pas encore quand, donc en 2018, probablement en septembre, enfin en tout cas dans quelques mois, Jean-Jacques Pérennes, vous dites, voilà, il faut que le message envoyé soit clair. Les 19 martyrs, hein, ils sont nommés comme tels, de l'Église d'Algérie, eh bien, ils ne seront pas béatifiés parce qu'ils ont été assassinés. Alors, quel est le message de cette béatification ?
D'une certaine manière, ils sont béatifiés parce qu'ils ont été tués. Je veux dire, oui. ils sont morts et c'est pour ça qu'on peut les appeler martyrs. Le langage, d'ailleurs, n'est pas tellement un langage agréable et satisfaisant parce que les martyrs, c'est aussi les djihadistes qui se font sauter, je veux dire, qui se disent aussi martyrs. Hein. Mais en christianisme, martyr, ça veut dire témoin de la foi. Hein. Et ce qui est célébré là, c'est pas le fait qu'ils aient été tués, c'est le fait qu'ils ont fait le choix libre de rester aux heures difficiles, de rester fidèles à ce pays, à l'Église d'Algérie et au Christ, un choix par amour, n'est-ce pas ? C'est l'amour qui fait qu'ils sont béatifiés. C'est pas seulement le fait d'être tués. Il y a plein de gens qui sont tués. Mais on peut être tué bêtement, froidement. Là, ils sont morts parce qu'ils ont fait le choix conscient. Et ça, c'est très remarquable. Moi, j'ai travaillé donc dans les préalables de cette cause de béatification pendant des années avec des historiens. Et c'est très émouvant de voir que dans les 19, il y a toute une gamme. Claverie, de Chergé sont un peu des intellectuels. Il y avait des petites sœurs espagnoles dont l'une était quasiment analphabète. Elle a fait la cuisine toute sa vie. Vous savez, ces petites bonnes sœurs d'autrefois qui étaient dans les cuisines et dans les sous-sols. Eh bien, lorsqu'elles se sont exprimées, elles ont dit la même chose. C'est-à-dire, ça tient en une phrase. Nous faisons le choix libre de rester par amour pour le Christ, pour l'Église et pour ce pays. Et ça, je trouve qu'il y a un message qui est puissant. Et c'est ça qui mérite d'être donné en exemple à l'Église universelle.
Et alors, dans le dialogue islamo-chrétien, c'est mort, c'est vie donnée, c'est du levain dans la pâte.
Oui, ce que souhaitent les évêques d'Algérie, et ils l'ont très bien exprimé dans leur communiqué, c'est que cette béatification soit l'occasion de souligner l'amitié avec l'Algérie et les Algériens. Ils sont morts comme beaucoup d'autres, et là aussi, il y a un petit piège à éviter, ne pas porter sur les autels nos propres défunts en oubliant les autres. Je veux dire, il y en a eu plein. Il y a eu 99 imams, par exemple, et les évêques ont souligné cela.
99 imams.
Oui, qui ont été assassinés parce qu'ils refusaient la logique islamiste. Et puis il y a eu des dizaines de milliers, il y a eu des femmes, il y a eu des journalistes, il y a eu des gens qui s'engageaient pour une Algérie, des artistes. Alloula, le directeur du théâtre d'Oran, ami de Pierre. Bon. Et donc, c'est l'amitié qu'il faut souligner dans cette affaire-là.
Avec Monseigneur Pierre Clavery est mort Mohamed, le chauffeur. D'ailleurs, un dominicain, Adrien Candiar, qui est venu du reste dans l'émission Religion du Monde, a écrit une pièce qui s'appelle Pierre et Mohamed, qui joue à Paris.
Oui, c'est très émouvant cette affaire-là, parce que Mohamed était donc un jeune garçon qui est donné un petit coup de main à l'évêché pendant l'été. Et les semaines précédant la mort de Pierre Clavery, il avait bien senti que c'était compliqué, un peu dangereux. Et Pierre lui avait dit, tu sais, tu es libre, hein, tu n'es pas obligé. Il dit, non, tu es mon ami, je suis avec toi. Et on a retrouvé après sa mort un petit carnet dans lequel il disait toute son émotion, toute sa fierté aussi d'être auprès de Pierre Clavery. Et donc cette pièce de théâtre a été mise en scène, qui est un texte très très beau, joué plus de 1000 fois. Créée au Festival d'Avignon il y a 5 ans, on se disait, est-ce que ça tiendra une semaine ? 1000 fois, elle a été jouée partout. Et il y a une sorte de mystère pour nous de ces deux hommes qui sont morts ensemble, qui ont mêlé leur sang. Clavery, au fond, qui avait ignoré les musulmans pendant toutes les 20 ans de premières années de sa vie, n'est-ce pas ? Tout d'un coup, à la fin, son destin est complètement mêlé, y compris par le sang, à un jeune musulman. Et lorsque nous avons réuni toutes les familles des moines et des 19 il y a 2 ans à Lyon, pour lorsque la cause a été bouclée, disons, et envoyée à Rome, Nous avions aussi invité la famille de Mohamed. Sa maman était venue avec son frère et sa sœur. Il y a eu une très très belle messe à Fourvière, avec tous les évêques d'Agile, le cardinal Barbarin. Et lorsqu'on a fait la prière universelle, ils étaient 20, vous comprenez ? C'est-à-dire qu'on a prié pour Mohamed aussi, il était avec nous. Je m'excuse, je suis ému, mais il y a quelque chose de très fort. Là. Il y a un mystère de la communion, vous comprenez ? Eux aussi sont morts pour des vraies valeurs qui sont les nôtres. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de beau qui mérite d'être souligné. Et j'espère donc que cette béatification soit l'occasion de célébrer l'amitié avec les Algériens.
Est-ce qu'il ne faudrait pas un jour créer, je ne sais pas, une journée islamo-chrétienne, justement, des martyrs de l'extrémisme ?
C'est peut-être encore un peu prématuré, dans la mesure où le monde musulman a encore tout un travail à faire sur sa propre culture, sur sa propre histoire et sur les drames qu'il vit. Parce qu'on voit bien aujourd'hui tout le débat, par exemple, dans la société française, des gens qui disent « mais ça, c'est pas l'islam », etc. Et en même temps, c'est bien un certain islam qui a conduit à ces violences, vous voyez, ou une certaine déviation de l'islam qui a conduit à ces violences. Mais je pense que si déjà un certain nombre de nos amis algériens, en l'occurrence, se retrouvent avec nous pour célébrer le sens de ces morts, de ces vies données, quelque chose va se tisser entre nous. Et peut-être qu'il y aura une étape ultérieure, en effet, dont nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui la nature.
Est-ce que ça ne rejoint pas précisément Jacques Hamel ? Le père Hamel, ça a été quand même une énorme émotion du côté des chrétiens, évidemment, mais du côté des musulmans aussi, que l'on a vu se retrouver. Est-ce que ces morts, tous ces morts, finalement, ne sont pas en train de construire autre chose ?
Peut-être bien. Moi-même, j'ai été extrêmement impressionné par les réactions à la mort du père Hamel, non seulement dans la communauté catholique française qui, en gros, a été très mesurée dans ses réactions, mais aussi beaucoup de courants musulmans en France qui ont voulu exprimer vraiment très sincèrement leur solidarité, leur émotion et être proches. Donc en effet, je pense que là aussi, vous savez, le Tertullien, le sang de martyr est une semence. Hein, et il y a quelque chose qui peut-être se crée à travers tout ça, mystérieusement.
On terminera avec vous, Jean-Jacques Pérennes, avec Jérusalem, où vous êtes depuis 2 ans et demi. Vous êtes donc le directeur de l'école biblique de Jérusalem. Nous évoquions la question du dialogue, la rencontre, hein, tout ce qu'ont vécu précisément ces religieux, ces 19 religieux qui seront béatifiés et qui sont morts donc en Algérie. Jérusalem, aujourd'hui, semble presque l'anti-rencontre avec les déclarations de Trump, déjà, ce mur, bon, qui existe déjà depuis longtemps, certes, qui protège du terrorisme, mais il semble que Jérusalem, c'est précisément, ce sont les murs.
Oui, ce sont les murs, ce sont les checkpoints. C'est même pas un mur qui protège du terrorisme, c'est un mur qui empêche la relation. Hein. Et donc, je dirais, c'est l'exemple type d'une rencontre ratée. Hein. Deux populations qui, d'une certaine manière, sont quand même assez proches. Quand je vois les juifs séfarades originaires du Maroc ou d'Irak, je veux dire, vous les confondez avec des jeunes palestiniens. C'est le même substrat humain. Mais là-dessus, se sont rajoutées des idéologies nationalistes, du côté juif d'abord, du côté arabe ensuite. Et c'est l'exemple opposé. C'est dramatique. Nous sommes dans un moment d'assez grande tristesse, dans la mesure où on voit bien que les accords d'Oslo, ben, c'est fini. Il n'est plus question de parler d'un processus de paix. La déclaration de Trump, d'une certaine manière, a acté cela, mais il n'y a pas d'alternative. Sauf un pays unique avec une population de seconde zone, dans des enclaves, etc. C'est assez triste. En tout cas, ce n'est pas un chemin pour la paix.
Jean-Jacques Pérennes, directeur de l'école biblique de Jérusalem et auteur de plusieurs biographies de religieux passionnés comme lui par la rencontre avec le monde musulman, parmi elles donc celle de Mgr Pierre Clavery. Mgr Pierre Clavery, assassiné donc avec Mohamed, son chauffeur, en 1996, a inspiré le frère Adrien Candiar du couvent dominicain du Caire. Il avait écrit il y a quelques années la pièce « Pierre et Mohamed » dont nous a parlé Jean-Jacques Pérennes. Cette pièce est aujourd'hui un livre publié dans une coédition Talendier sert et il est préfacé par Jean-Paul Vesco, l'évêque de Rouen. 3 minutes d'infos et après le flash, Myriam, jeune femme musulmane, nous racontera son mariage avec Maxime Lecateau. Et vous êtes bien à l'écoute de RFI.
Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie de Religion du Monde. Mercredi prochain, 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin, le jour des amoureux. Et nous allons justement vous raconter une belle histoire d'amour avec notre invitée, Myriam Blal, pour son livre « Le baiser du Ramadan, le jour où je me suis mariée avec un chrétien » et c'est publié chez Bayard. Myriam Blal, bonjour.
Bonjour.
Alors, nos auditeurs l'auront compris, on va parler des mariages mixtes à travers votre histoire. L'histoire d'une histoire d'amour avec Maxime, aujourd'hui votre mari. Vous avez un petit garçon qui aura bientôt 3 ans. Mais cette histoire n'a pas été simple. Alors, vous la racontez d'emblée. Hein. On comprend la difficulté avec les premières pages, écrites sous la forme d'un dialogue avec votre père et votre mère. Épouser un non-musulman, c'est pas possible, c'est haram.
Exactement, oui. Au départ, je commence par ma mère qui me dit, voilà, si cet homme veut se marier avec toi, c'est complètement haram, donc vous l'avez dit, donc c'est illicite, et donc tu iras en enfer. Et mon père, qui va voir 3 imams, et tous sont catégoriques, si cet homme, donc Maxime, s'il veut se marier avec moi, il faudra qu'il se convertisse à l'islam.
Alors, quand vous avez cette conversation, c'est au terme d'une vie cachée pendant quelques temps.
Oui. Hein ?
On va revenir un peu en arrière. Vos parents sont tunisiens. Ils sont arrivés en France dans les années 70. Ils ne devaient pas rester tellement longtemps. Ils vont s'y installer. Vous allez grandir en France, en grande partie.
Oui, mes parents, lorsqu'ils arrivent en France dans les années 70, ils s'imaginent que la France serait une brève étape dans leur existence. Or, ils s'y établissent toute leur vie. Et donc, en France, ils vont avoir 3 filles. Donc, moi, je suis la petite dernière. Mon père est ouvrier chez Renault à l'époque. Ma mère s'occupe de ses enfants.
Et elle veille au grain, manifestement. Hein.
Oui, tout à fait. Elle nous surveille beaucoup. Elle surveille beaucoup mes grandes sœurs. Elle a peur pour elle. Elle ne veut surtout pas qu'elle tombe amoureuse de Français, comprenez, de non-musulmans. Et surtout, il faut conserver sa virginité avant le mariage.
Pour vous, le grand bonheur, chaque année, c'est de partir en Tunisie.
Oui.
En vacances, l'été.
Oui, tout à fait. Oui,
et vous allez rester à un moment donné pendant 3 ans.
Oui, donc chaque année, on se rendait en Tunisie avec ma famille. Et c'est vrai que c'est l'occasion de grand bonheur pour moi parce que c'est les retrouvailles avec la famille élargie, les oncles et tantes, les cousins et les cousines. Et puis moi, donc à 9 ans, mes parents se séparent et je me retrouve en Tunisie pendant 3 ans. Je vis chez ma grand-mère et chez ma grand-mère vit ma tante. Et elle va s'occuper de moi pendant ces 3 années de scolarité.
Mais manifestement, au bout de quelques temps, ce bonheur d'être retourné au pays s'évapore un peu. On vous demande de repasser la chemise d'un cousin et là, vous n'êtes pas d'accord en Tunisie.
Oui. C'est vrai, donc ce cousin arrive chez ma grand-mère et puis il a un rendez-vous, il est pressé, il me demande « Myriam, est-ce que tu peux me repasser ma chemise ?» Et donc déjà, moi, il faut savoir que je déteste repasser. Et en plus de ça, je trouve ça mais complètement insensé en fait. Pourquoi est-ce que moi je devrais repasser sa chemise? C'est sa chemise. Non pas qu'il soit un homme, ou même peut-être ça avait été une cousine, ça aurait été la même chose finalement, mais... c'est à lui de la repasser, sa chemise. Et donc là ma grand-mère s'y met avec lui et finalement je vais la repasser parce que on me dit ça se fait pas en fait, c'est ton grand cousin, tu dois lui repasser sa chemise.
Alors, vous êtes une rebelle aimable, j'allais dire, mais vous êtes tenace parce que dans cette relation que vous allez avoir au début, une relation amoureuse, on va dire, avec Maxime, vous allez tenir parce que vous savez très bien les remparts qu'il va falloir franchir. Mais déjà, avant Maxime, est-ce que vous vous étiez autorisé à avoir des petits copains ou pas? Ou c'était vraiment, là aussi, il y avait toujours la question du petit copain, est-ce qu'il va être musulman, pas musulman? Est-ce que ça vous travaillait déjà?
Oui, parce que Maxime n'est pas le premier petit copain rencontré. J'en ai rencontré d'autres et malheureusement, ou heureusement, je sais pas, ces hommes-là n'étaient pas musulmans. Donc très tôt se pose à moi cette question, mais je suis sans cesse tiraillée entre mon héritage culturel religieux et mes envies et les hommes vers lesquels je vais. Je culpabilise beaucoup de la situation.
Manifestement, effectivement, il y a une culpabilité permanente chez vous quand vous êtes adolescente et post-adolescente.
Oui, parce que j'ai vraiment grandi avec l'idée d'une supériorité aussi des musulmans sur le reste du monde. Voilà, ma mère qui nous rappelle sans cesse que nous, musulmans, nous sommes le peuple préféré, aimé, choisi de Dieu.
Peuple élu de Dieu, vous écrivez, voilà. Qui ira au paradis.
Tout à fait, et que le reste du monde, eh ben, ce sont des mécréants qui vont brûler en enfer.
Ah oui, alors j'aime beaucoup ce passage, l'abbé Pierre ira en enfer, hein, c'est le sous-titre d'une petite partie du livre. Maman, mais même l'abbé Pierre ira en enfer? Et votre mère vous répond, oui, même l'abbé Pierre, tous les non-musulmans iront en enfer. Et vous dites, voilà, je trouvais ça vraiment injuste, et je pense à mes copines Nadine juive et Ludmilla catholique. Est-ce que vous vous rebellez? Est-ce que vous dites à votre mère, c'est pas possible maman, c'est l'abbé Pierre, regardez tout ce qu'il fait, enfin pensez, est-ce que vous lui dites ça?
J'essaye. Mais je pense que ça, elle a du mal à le comprendre. Une fois, je me souviens m'être rebellée après ma mère, elle m'a énervée. Et puis là, je vais aux toilettes et je lui fais un bras d'honneur.
Dans les toilettes.
Hein. Dans les toilettes. Et donc là, je fais ce geste qui est complètement, enfin, qui est à la mode à l'école.
Ça vous défoule, quoi.
Ça me défoule. Et puis, je ressors et je lui dis, je repense à Dieu et je lui dis, mais maman, est-ce que Dieu, il nous voit partout? Enfin, même quand on est aux toilettes. Et elle me dit, oui, Dieu te voit partout, même aux toilettes. Et donc là.
Aïe. Et d'ailleurs, un jour, vous posez une question, hein, manifestement à votre mère, un jour où vous êtes en pleine interrogation. Maman, est-ce que tu préfères Dieu à tes filles? Et elle répond, oui,
tout à fait. Donc ça aussi, ça, je ne le comprenais pas parce que voilà, je lui pose ces questions-là. Elle me dit qu'il faut aimer Dieu plus que tout. Donc elle me dit voilà, j'aime Dieu plus que ma famille, plus que mes filles. Et donc je lui dis bah moi aussi. Alors je dois aimer Dieu plus que mes parents. Elle me dit oui, tout à fait. Mais c'est vrai que il y a cette vision en fait d'un Dieu qui est omniprésent, omnipotent, qui me suit partout, qui est toujours là en fait comme une force invisible, mais qui a un peu le pouvoir. Et c'est vrai que moi, très tôt, en fait, ça m'interroge, ça me pose question, et j'ai l'impression que ce Dieu-là, il m'ôte aussi ma liberté.
Alors, il va y avoir le jour où vous rencontrez Maxime, tout à fait par hasard. Vous êtes seule à ce moment-là, pas de petits copains, personne. Vous avez à ce moment-là 27 ans, c'est le coup de foudre. Lors d'un week-end à Nantes, vous êtes invitée. C'est par le plus grand des hasards, vous vous trouvez dans un jardin, autour d'une table, il fait beau, c'est l'été. Votre voisin est à côté de vous, c'est Maxime.
Oui, c'est ça. C'est toujours, voilà, c'est un peu banal ce que je veux dire, mais c'est toujours quand on s'y attend le moins qu'on fait ce genre de rencontre. Enfin, c'est une très belle rencontre, en tout cas. On ne fait que se parler pendant toute la soirée. On a l'impression de, voilà, de se connaître. Et c'est...
Depuis toujours?
Depuis toujours. L'échange est très rapidement très profond, très vrai, très sincère. Et donc, là, je finis la soirée. Je me sens bien.
Bon, et puis vous allez vous retrouver à Paris et vous allez commencer, en fait, là je vais en raccourci, vivre ensemble, mais tout ça est caché.
Oui, tout ça est caché pendant une année entière. Mes parents ne savent rien de ma relation. Très tôt, je mets mes sœurs dans la confidence. D'ailleurs, elles respectent totalement mon choix. Mais c'est vrai qu'aux yeux du Dieu avec lequel j'ai grandi, ça ne se fait pas du tout de présenter... mon ami à mes parents. Voilà, on n'est pas mariés, donc ça voudrait dire, alors ils vivent ensemble sans être mariés.
Ça, c'est pas possible.
Ça, c'est pas possible, non. Culturellement, c'est pas possible.
Vos futurs beaux-parents sont dans la confidence.
Oui, ils sont dans la confidence, ils me rencontrent. Je suis très bien accueillie chez eux. Et c'est vrai que régulièrement, la question de la maman de Maxime, et alors, est-ce qu'un jour Maxime va rencontrer tes parents, Myriam? Oui, mais c'est pas si simple. Voilà, il leur faut un temps de préparation plus important. Donc, c'est vrai que moi, le jour où finalement je ne peux plus reculer, c'est au moment donc où, au bout d'une année de vie commune avec Maxime, il me fait une demande en mariage. Donc, moi, je suis folle de joie et en même temps, j'ai peur. Je me dis, mes parents n'en savent toujours rien. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je ne peux plus garder ce secret. Je dois le partager avec mes parents. Et puis, bah, quoi qu'il advienne, enfin voilà, comme ça, ils le sauront. Et puis, cette double vie me pèse terriblement. Donc, j'appelle ma mère, puis mon père. Et donc, ma mère, ma grande surprise, elle le prend plutôt bien. Elle me dit que je suis grande. Bon, je vais aller en enfer, ça, c'est clair. Ce que je fais totalement péché, mais... Bon, elle ne me renie pas. C'était ma plus grande crainte. Et mon père, que j'appelle, je pensais au contraire qu'il réagirait pas forcément positivement, mais qu'il serait un peu plus ouvert. Et donc lui me dit, c'est pas possible, je vais me renseigner, mais je crois que c'est pas possible, cet homme-là, s'il est pas musulman, tu peux pas faire ta vie avec lui.
Écoutez Religion du Monde, notre invitée Myriam Blal pour son livre Le baiser du Ramadan, le jour où je me suis mariée avec un chrétien, et c'est publié chez Bayard. Le baiser du Ramadan, c'est le baiser sur un quai de gare, c'est ça? Et c'était le jour du Ramadan, le premier jour du Ramadan?
Alors c'était les premiers jours du Ramadan, je passe mon premier week-end chez Maxime et il vient me chercher, il était au courant hein, mais je pense qu'il a oublié et donc il vient, il essaie de m'embrasser et je lui dis Maxime on va attendre, enfin, je tends la joue, le soleil n'est pas encore couché, là est venu ce titre.
Maxime est de culture catholique, ses parents sont catholiques. Vous, vous êtes musulmane pratiquante à ce moment-là?
Ça dépend ce qu'on attend par pratiquante. Pour certains, à ce moment-là, je ne serais peut-être même pas une musulmane parce que je suis avec un non-musulman.
Mais vous faites le ramadan?
Oui, à
la
ce prière. Moment-là, non. Alors, je prie, mais il ne s'agit pas des cinq prières rituelles. J'ai un rapport assez libre et intime avec Dieu. Maxime, c'est pareil, il n'est pas pratiquant, mais il se sent très relié aussi à Dieu, à quelque chose qui nous dépasse. Après, on passe pas forcément par ce rite chrétien ou catholique pour aller vers Dieu.
Alors, vous allez quand même vous marier religieusement. Et là, c'est quand même tout un travail, toute une démarche. Hein. Ça prend, d'ailleurs, dans le livre, vous expliquez très bien. Vous recherchez un imam, un imam un peu introuvable.
Oui.
Et puis, du côté de Maxime, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il y a effectivement, dans l'église catholique en France, un service de relation avec l'islam qui aide des jeunes couples mixtes, précisément, à trouver une solution pour se marier religieusement. Alors, ce mariage, il va avoir lieu dans la maison au bord de la mer des parents de Maxime. Votre mère sera là, vos sœurs, quelques personnes de Tunisie, pas votre père. Ça, c'est dur, ça?
Oui, c'est dur. Et en même temps, si mon père avait été là et s'il avait tirer la tête, ça aurait été peut-être encore plus dur, mais c'est vrai que mon père n'a pas supporté mon choix d'adulte, que j'ai fait. Il n'est pas venu.
Mais l'ambiance est plutôt très bonne, elle est même excellente, parce que votre mère et votre belle-mère se sont rencontrées plusieurs fois avant, elles ont même vécu la semaine qui a précédé le mariage avant, et l'ambiance finalement est très chaleureuse. C'est tout le contraire même. C'est magnifique votre mariage d'ailleurs. Racontez-nous ces moments.
Eh bien, on a suivi la marche rituelle d'entrée à l'église. Donc moi, je suis arrivée pas au bras de mon père, mais au bras de mon petit frère. Maxime m'attendait sur une estrade qui avait été surélevée face à nos invités. Il fait très beau ce jour-là.
C'était au mois de septembre, c'est ça?
Tout à fait.
2014.
Donc là, je marche et je suis ailée par deux amis de ma mère qui me disent « Myriam, est-ce qu'on peut faire un you-you ?» Et donc, je leur dis « Bien sûr !» Et voilà, donc le you-you, j'avance.
Après Jean-Sébastien Bach, vous avez monté.
Oui, c'est ça. J'ai une amie à la flûte et un ami à l'orgue donc qui joue Jean-Sébastien Bach. Et donc là, je vois Maxime qui est sur une estrade. Un petit mot d'accueil qu'on avait préparé donc pour nos invités. Ensuite, c'est au prêtre de prendre la parole, donc qui remercie un peu tous les participants, toute notre famille et nos amis d'être là. Et puis, donc, comme aucun imam n'a voulu nous marier, nous avons associé à la cérémonie un représentant musulman. C'est Miloud, en fait. Miloud est un des fondateurs du groupe des foyers islamo-chrétiens, donc des couples comme les nôtres. Et donc, il connaît très bien cette problématique-là. C'est un homme érudit de l'islam. Donc, il est aux côtés du prêtre qui nous marie.
Alors, il y aura deux textes lus. Un texte tiré du Coran, l'autre texte tiré de la Bible.
C'est ça, c'est important pour nous que cette cérémonie religieuse soit empreinte de nos deux traditions. Donc les lectures vont être faites par nos sœurs respectives. Puis il y a aussi un témoignage à deux voix de Jacqueline et Miloud. Donc Miloud, le représentant musulman, et sa femme Jacqueline, qui est mariée, ils sont mariés depuis plus de 40 ans, donc qui témoignent sur leur vie de couple et de famille islamo-chrétienne. Et puis Miloud a été récitateur de Coran quand il était plus jeune. Et donc là, il va psalmodier la sourate de la Fatiha, la première sourate d'ouverture du Coran. Donc là, c'était un très beau moment, très émouvant. Il y a eu beaucoup de chants aussi pendant ce mariage. On a pris le temps, tous les textes et les chansons, de les travailler, de pas trop offenser ma famille, de mettre de côté la Trinité, le Jésus, fils de Dieu.
Alors, il y a eu le baiser aussi, pendant le mariage, qui vous pose un vrai problème, parce que normalement, dans un mariage musulman, l'époux embrasse sa femme sur le front ou la joue.
Oui.
Et vous, vous êtes embrassée sur la bouche.
C'est vrai, c'était une question qui me travaillait pas mal. Avant notre mariage, je me disais, mais est-ce que je vais avoir le courage d'embrasser Maxime? Est-ce que je vais m'autoriser cela? Donc moi, c'est vrai que je me pose cette question-là. Et puis, les choses se passent tellement bien que, bon, je me dis, on prépare ce jour depuis tellement longtemps, ce serait quand même dommage de se priver d'un baiser.
Donc c'est une belle victoire, Myriam Blal, ce mariage. Avant, des tentatives de compromis avaient été cherchées par vos parents, notamment votre père qui disait « mais voilà, qu'il se convertisse, c'est juste une phrase, la shahada, c'est pas compliqué, ça changerait tout ».
Et moi-même, j'ai été tentée à un moment d'amener Maxime vers la conversion. Je lui ai dit, finalement, s'il se convertit, c'est peut-être pas si grave que ça. Comme dit mon père, il reste chrétien. C'est simplement une conversion de façade.
Pour la famille aussi,
voilà,
c'est ça.
Qui va nous,
en Tunisie.
Tout à fait. Qui nous évitera donc bien des problèmes. Et Maxime, heureusement, à ce moment-là, s'oppose très fermement et me dit, mais non, enfin, bâtir notre vie sur un mensonge, c'est pas possible, Myriam. Mais il a raison.
Religion du monde. Geneviève Delru.
Ce qui est important dans votre histoire, c'est que vous avez trouvé aussi des soutiens. Il y a ce couple que vous évoquiez il y a quelques instants, Jacqueline et Miloud. Un prêtre aussi, qui vous a bien aidé, et que également l'Église catholique ait mis au point un service d'accompagnement des couples mixtes. Il y a quand même quelques imams qui se sont montrés ouverts. Je pense à l'imam de Bordeaux, par exemple, Tarek Oubrou.
Oui, Tarek Oubrou le dit à plusieurs reprises dans des livres et au cours d'interventions à la télé. Une femme qui se marie avec un non-musulman reste musulmane. Sauf que lorsque j'essaie de le contacter pour qu'il vienne bénir notre union, il ne me répond jamais. Il faut savoir aussi que le mariage en islam n'est pas sacré, donc la présence de l'imam, elle n'est pas obligatoire. Mais bon, comme elle l'est pour des hommes musulmans qui se marient avec des non-musulmanes, moi j'aimerais trouver cet engagement-là aussi de ma communauté religieuse, que je ne trouve finalement pas, et qui s'incarne donc dans Miloud, et je trouve que les choses sont bien mieux ainsi.
Finalement, Myriam Blal, le fait d'épouser une personne d'une autre religion, en tout cas quand je vous lis, ça paraît très nettement, vous a obligé à revenir sur votre foi, à la réétudier, à la regarder, que c'était manifestement la même chose pour Maxime.
C'est exact. Cette rencontre avec cet autre différent de moi m'amène à réinterroger notre foi, à savoir qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on met dans ce Dieu, dans nos croyances aussi finalement. Ça amène à se reposer des questions sur nos croyances.
Vous êtes allé sur des sites, mais manifestement, vous n'avez pas toujours trouvé les réponses que vous recherchiez.
Non, c'est surtout au travers de rencontres que je vais aussi faire de grandes découvertes. Je pense à une rencontre avec un historien des religions, Dominique Avon, qui me dit cette phrase toute banale, mais qui pour moi a beaucoup d'impact. Il me dit « Cet interdit pour la femme musulmane de se marier avec un non-musulman, il est basé sur un consensus religieux qui a pris naissance au moment de la conquête arabe au 7e siècle, donc de la Palestine, qui s'étend jusqu'à l'Empire perse. Et en fait, à partir de là, ce consensus, il n'a jamais été repensé.
C'était quoi ce consensus? Ah oui. Ça veut dire quoi?
Eh bien, en fait, pour empêcher les femmes de passer sous le joug de groupes culturels perçus comme différents culturellement, donc les femmes étaient interdites de s'unir à l'ennemi, enfin aux non-musulmans. Alors que, à contrario, les hommes musulmans, eux, pouvaient, au contraire, c'était peut-être même conseillé de se marier et de s'unir avec des non-musulmanes dans un objectif d'accroissement de la
d'extension de la communauté, voilà, et du territoire.
Tout à fait. Et donc, en fait, je me dis, c'est fou, cette vérité-là qu'on nous sert comme quelque chose d'implacable est restée impensée, et elle nécessite aujourd'hui d'être réinterrogée au vu des sociétés complexes dans lesquelles on évolue. Aujourd'hui, on explique ça en disant, oui, mais voilà, les savants musulmans contemporains maintiennent ce consensus et disent, alors vous comprenez, c'est par rapport à la nature faible de la femme qui l'amène à, enfin, si elle s'unit avec un homme musulman, elle va, cet homme-là va avoir plus d'influence sur elle, il va l'amener à dévier de sa religion et de son chemin, et donc les enfants ne seront pas musulmans. Et donc aujourd'hui, en 21e siècle, alors il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'égalité des droits envers les hommes et les femmes, mais on peut plus se permettre un tel discours. Voilà, les femmes travaillent, gagnent leur vie, parfois voilà aussi bien voire plus que des hommes. Donc cette vérité-là, elle est obsolète.
Vous avez un petit garçon qui a 2 ans et demi. Manifestement, avant sa naissance, il y a une sorte de raidissement, j'allais presque dire identitaire de votre part, non? Vous vous dites, mais il y a les questions du prénom, la circoncision, et là, on vous sent à nouveau dans une interrogation.
C'est exact, oui. Je peux dire que mes parents m'ont transmis un peu leur peur à ce moment-là. Le fait d'avoir grandi avec cette suprématie des musulmans par rapport aux autres, je me dis, bon, bah, mes enfants, si on a des enfants, Maxime, il faut absolument qu'ils soient musulmans. Parce que c'est comme ça, parce que c'est la voie juste et c'est la bonne voie. Et c'est vrai, donc Maxime, alors lui, ça lui pose pas de problème. Il me dit, tant qu'on leur transmette le goût du sacré, ça me va. Et en fait, ça va être au cours de rencontres avec des couples islamo-chrétiens. J'ai besoin d'en rencontrer. Je constate que ces familles sont épanouies et équilibrées et j'accède véritablement à un laboratoire d'innovation assez foisonnant. Alors, il y a des couples qui vont circoncire leur fils, d'autres qui vont décider de baptiser, d'autres qui vont préférer au baptême une présentation à Dieu construite de toutes pièces. Et donc, au travers de ces rencontres, moi-même, je me mets à me réinterroger sur certaines choses, comme par exemple la circoncision. Pour moi, il était évident que si on avait un fils, il serait circoncis.
Or, Abel n'est pas circoncis.
Abel n'est pas circoncis parce que, il faut savoir aussi que la circoncision, c'est une tradition culturelle, hein, et finalement, ça a à voir avec une lignée paternelle. Donc, je me dis, si Maxime n'est pas circoncis et Abel, son fils, l'est, ça marque une rupture, donc ça n'a pas trop de sens. Voilà. Donc, moi aussi, donc, au fil de mes rencontres, je suis amenée à cheminer et à réinterroger des évidences.
Quelques mots sur vos amis, Myriam, Blal. Vous vous êtes mariée en 2014. En 2015, les attentats du 13 novembre. Et c'est compliqué pour vous à ce moment-là, manifestement. Ça relance quelque chose.
Oui. À ce moment-là, en fait, on se rend compte avec Maxime, c'est plutôt Maxime, finalement, qui se rend compte qu'il est maintenant désormais appréhendé comme un Français marié à une musulmane. Donc c'est vrai que ça, on a pu le voir au travers de regards, de gestes, mais très gentils et très bienveillants au départ de personnes de notre entourage. Et puis ça nous amène à repenser pas mal de choses. Maxime, au départ, quand on s'était rencontrés et on se projetait sur nos enfants, j'aime beaucoup le prénom Ibrahim. C'est Maxime qui me dit ça. Si on a un garçon, on pourrait l'appeler Ibrahim. Et puis, après les attentats, il me dit, en fait, Myriam, c'est peut-être pas une bonne idée.
Donc, c'est pour cela que vous avez choisi pour prénom de votre fils, qui est né en 2015. Vous avez choisi Abel?
Oui, c'est pour ça. Ça nous paraissait peut-être trop lourd à porter Ibrahim. On s'est dit, Abel, ça fait du sens dans nos deux religions. Et
c'est biblique.
Voilà.
Alors, pour conclure, Myriam Blal, Le baiser du Ramadan, donc ce livre, vous racontez toute votre histoire avec Maxime. Vous avez voulu l'écrire pourquoi? Est-ce que c'est pour envoyer un message à des couples, justement, qui connaissent vos difficultés?
Oui, il n'existe aucun livre sur ce sujet. Et alors qu'il faut savoir que quotidiennement, des hommes et des femmes français sont confrontés tous les jours
à cette situation.
Oui, à cette situation, et ils prennent conscience, ils se rendent compte à quel point leurs différences religieuses et culturelles sont importantes aux yeux de leur entourage. Par peur, par amour, ou parfois même par ignorance, des parents vont pas hésiter à afficher leur désapprobation pour le choix de leur enfant, quitte à ce que ces enfants-là, parfois, décident de mettre fin à la relation. Et c'est vrai qu'avec Maxime, on aurait beaucoup aimé trouver un livre sur ce sujet pour nous sentir entourés. Au début de notre relation, on avait l'impression d'être seul au monde. Alors j'ai décidé de l'écrire pour montrer tout simplement que c'est possible et qu'à un moment, je pense qu'il est nécessaire de poser des choix d'adulte sur sa vie, même s'ils sont contraires aux normes dans lesquelles on a baigné une grande partie de sa vie.
Myriam Vlal, vos parents, avec la naissance d'Abel, ils sont heureux? Votre père, il connaît votre fils?
Ma mère est une grand-mère comblée. Mon père, en revanche, n'a toujours pas rencontré Abel. Il m'a contacté cet été dans ce sens, donc affaire à suivre, mais c'est sur le bon chemin.
Merci Myriam Vlal. Je rappelle le titre de votre livre, Le baiser du Ramadan, le jour où je me suis mariée avec un chrétien. C'est publié chez Bayard. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Cécile Bonissi vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.